Auditeurs, auditrices, bonsoir. Nous sommes le lundi 18 décembre 2023, il est 20h. Et comme tous les lundis à cette heure-ci, on joue la prolongation. Pour que tu passes, Didier, pour que tu passes à l'antenne, je désactive Talk, c'est ça? Il est à fond. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition de l'année 2023. On a un beau programme ce soir qui nous attend. On va parler de foot belge bien sûr et des tirages au sort des Coupes d'Europe notamment. Puis on aura droit aussi à notre dose hebdomadaire de Sportimize, de minutes Sportimize. Justement, si vous entendez Sportimize, vous pensez forcément à celui qui nous donne toujours d'excellentes infos marketing, tout ce qui se passe en dehors du terrain. On a appris plein de choses, notamment sur les activations que font les clubs, les diverses opérations marketing, et c'est de plus en plus intéressant. Vous l'avez reconnu, bien sûr, c'est le fondateur de l'agence de marketing sportif Sportimize, c'est Alexandre Demeter. Salut Alex, comment vas-tu?
Hello Sam, pour la dernière en pleine forme. Alors une minute sportive un peu spéciale avec un thème moins fancy mais tout aussi intéressant, j'espère.
Parfait.
Teaser.
Ah, vous avez peut-être entendu, reconnu sa voix. Vous avez reconnu sa voix. Il est notre mauve préféré, bien sûr. Ça fait toujours plaisir quand il est là avec nous. Vous l'avez peut-être suivi dans l'émission d'avant. C'est notre très cher Henri Daniel. Salut Henri, comment vas-tu?
Je vais très bien, salut Alex.
Hello.
Nous ne sommes pas que trois ce soir. Nous avons...
Ah oui, qui ça?
Un homme reconnaissable à ses rayures bleues et noires, mais également... Blau and Zwart Forever, vous le connaissez, vous ne connaissez que lui, sa voix vous réveille tous les matins. Et maintenant, elle va vous bercer ce soir pour aller dormir. Le seul, l'unique, Didier Cohn. Salut Didier, comment vas-tu?
Salut Didier.
Et ben nous aussi, on est très contents d'être tous ensemble pour pouvoir parler un peu du sport qui nous plaît tant, le football. Je vous le disais, le menu c'est simple, on va parler de la Jupiler Pro League, ce qui s'est passé ce week-end, comment les choses évoluent après cette semaine de Coupe d'Europe. On va parler ensuite des Coupes d'Europe, justement des tirages au sort, et entre les deux on aura eu droit sans doute à notre minute Sportimize. Alex, tu veux nous mettre un peu l'eau à la bouche?
Mais je l'ai déjà fait Sam, ça sera... On parlera du club...
De monsieur en face?
De monsieur en face, qui est mauve et blanc.
Il y a des trucs à dire?
Oui.
Il y a toujours des choses à dire sur le sportif.
Et on parlera justement des supporters qui sont plus mauves que blancs à ce moment-là. Ah. Ou plus blancs que mauves, ça dépendra pour certains.
Bah écoute, on a hâte d'entendre ça. Je crois que c'est le moment de donner le coup d'envoi. Coup d'envoi, et comme vous le savez depuis le début de la saison, on démarre chaque émission avec notre rubrique « Le Belge de la semaine ». Notre Belge de la semaine, le principe est simple, vous choisissez, nous choisissons un joueur ou pas, un entraîneur, en tout cas un acteur du football, belge ou pas. Enfin en tout cas quand je dis ou pas, il faut qu'il soit lié quand même, qu'il ait un lien avec la Belgique. Hein. Il peut jouer dans le championnat Jupiler Pro League et ne pas être belge par exemple. Et mon petit doigt me dit que c'est peut-être le cas de celui qui a choisi Henri.
Voilà, moi j'ai choisi Georges Ilenikana.
Il est très dur à dire déjà.
Je ne suis pas facilité les choses. Donc c'est un joueur de 17 ans qui joue à l'Antwerp et qui a eu sa semaine de gloire.
Absolument.
Qui à mon avis va être pas la seule semaine de sa carrière. Donc il a marqué un but décisif dans les arrêts de jeu contre le Barcelone. Le Barça qui était venu jouer son dernier match malgré que c'était une équipe B. Mais quand même...
Il échappe coup de chapeau quand même.
Il faut le faire à 17 ans de marquer ce but à 95e minute, alors qu'ils avaient encaissé à 93e une égalisation.
Et je crois que tu as un petit. Et alors, petite info qui va me faire plaisir.
Une petite info pour me faire plaisir. Donc, au moment où il a marqué ce but, il y avait le plus jeune joueur, le plus jeune buteur de la Coupe de Champions. La Champions League, pardon, était depuis quelques minutes, depuis 11 minutes, c'était un certain Warren Zaïre-Emery, qui venait de marquer avec le PSG.
Ah.
Mais il est né au mois de mars. Et mon ami Georges, lui, il est né au mois d'août.
Ouais, ça fait une
et il a marqué à la 96e minute, donc c'est lui qui est devenu le plus jeune buteur de la Coupe du Championnat, enfin,
de la Champions League
eh ben. De cette année.
En tout cas, c'est fou de voir que ce record, qui est quand même assez difficile à prendre, a été battu le même soir, à quelques minutes d'intervalle.
Ils sont tous les deux nés en 2006. Ce qui nous fait quand même froid dans le dos.
Ouais. Ah ouais, ça nous rajeunit pas.
Et je crois qu'ils sont tous les deux français. Enfin, Georges, dont je prononcerai pas le nom parce que c'est trop compliqué, il est franco-nigérien. Nigérien, je crois.
Exactement.
Bon, bah, en tout cas, belle carrière devant lui, sans doute.
Comme la semaine n'était pas encore assez glorieuse pour lui, là, il s'est crucifié Anderlecht dans les dernières minutes du match Antwerp-Anderlecht.
On en parlera. Pardon, Alex ?
C'est une bonne nouvelle, par contre.
Pour lui, oui. Mais je reconnais le talent, donc. À suivre.
Suivre. Alex, toi, tu as choisi qui ?
J'ai deux Belges de la semaine, à savoir Johan Bakayoko et Jorbe Vertessen, qui jouent tous les deux au PSV Eindhoven. Donc, ce n'est pas nécessairement eux, ils n'ont pas marqué ce week-end dans la victoire 0-4 à l'AZ Alkmaar. Mais leur club réalise quand même un 48 sur 48.
C'est fou. Ouais.
Donc, ils ont enchaîné 16 victoires consécutives dans le championnat des Pays-Bas. Ils ont battu tout le monde pour l'instant, à part l'Excelsior Rotterdam qu'ils accueillent dans les jours qui viennent pour la dernière journée du premier tour.
J'imagine.
Et donc, ils pourraient réaliser une prestation quand même assez exceptionnelle.
C'est historique.
Tous les clubs lors du premier tour et filer vers le titre en théorie. Donc,
priori,
en Belgique, on avait connu ça avec le club de Bruges il y a presque 20 ans, qui avait enchaîné 13 victoires consécutives, ce qui était déjà monstrueux. Ah, ici, ils en rajoutent 3. Quoi. Donc, chapeau bas. Ils sont qualifiés aussi en Ligue des Champions dans le groupe du RC Lens. Donc, ils marchent sur l'eau et même au-dessus pour l'instant.
Ouais.
Donc, coup du chapeau au PSV et les Belges.
Bravo à eux. Didier, qu'est-ce que tu as choisi ? Absolument. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est une bonne chose pour le championnat d'avoir d'illustres gloires comme eux qui reviennent et des joueurs qui ne sont pas là juste sur leur nom. Ils ont quand même largement le niveau, du championnat. Quand je dis largement, c'est vraiment...
Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le championnat ?
C'est des joueurs de très haut niveau, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que ça comme tu disais, comme le disait Didier, ça permet de tirer les jeunes vers le haut. Ils ont face à eux ils s'entraînent avec des joueurs exemplaires et ça peut que les faire progresser.
Surtout que si l'Antwerp est champion l'année passée, c'est grâce à ce transfert. Et je ne serais pas surpris qu'Anderlecht puisse l'être cette année grâce à ce même transfert.
Eh ben, on verra ça.
Que Dieu t'entende.
Voilà, je sentais que...
Il est absent ce soir.
Ça allait faire plaisir. Moi, j'ai choisi j'ai choisi une équipe. Ça fera plaisir à tout le monde, je suis sûr. C'est l'Union Saint-Gilloise. Pourquoi ? Parce que victoire face à Liverpool. Alors, vous me direz, celle-là aussi, c'était...
Les U21B.
Les U21B de Liverpool. Mais enfin... ils ont peut-être pris l'exemple sur les Toulousains, qui est le plus beau tifo de la saison, j'ai trouvé. Puisque, souvenez-vous, les Toulousains avaient sorti le calico avec écrit avec la tête de Michel Blanc dans les bronzés. Où ils avaient écrit sur un malentendu, ça peut marcher. Ils avaient battu Liverpool. Oui, Didier ?
Justement, tu as perdu 0-1, but de Riquelme. Ouais, mais c'était pas tout à fait la même chose.
Riquelme, quand il est arrivé au Barça, même s'il avait été consigné dans l'équipe B, c'était déjà un grand joueur. Il n'est pas arrivé...
Ouais, tout à fait.
Non, mais c'est vrai. Non, mais...
Tu me permettras de pas être d'accord.
Mais ben vous réglerez votre discussion après. Je vais essayer de terminer.
Non,
d'abord.
Attends, je suis pas d'accord parce que avant ta squad list, elle était quand même bien différente que maintenant. Il suffit d'aller voir sur Wikipédia la squad list Barcelone en 2002 de mémoire, quand Riquelme marque son but des 20 mètres et qui bat Verlinden aisément. La squad list de Barcelone, t'avais 25 joueurs à tout casser. Et l'équipe B, c'était Bogart, c'était Reisiger, c'était Bonanno, c'était des joueurs qui étaient internationaux dans leur pays. Ici, Liverpool, sur la feuille de match, je suis désolé, il y a 8 joueurs que j'avais jamais entendu parler de ma vie. C'est les U21B.
Mais l'histoire retiendra le score.
C'était, ben oui, mais... c'était plus, moi, c'était non, plus pour la semaine. C'était pour la semaine de l'Union qui a donc battu ensuite Malines. Et au-delà de ça, de ces deux victoires de l'Union, c'est indirectement deux joueurs qui ont appartenu à l'Union, qui ont joué en tout cas, ils n'ont pas appartenu, mais ils ont été prêtés à l'Union et qui ont permis à leur club de terminer en tête de leur groupe de Ligue Europa, c'est Adingra et Mitoma, qu'on avait vu animer les flancs de l'équipe saint-gilloise avec brio. On s'était demandé, Mitoma il est allé en première ligue un an avant, mais on se demandait quand même comment les deux joueurs allaient s'intégrer l'un après l'autre. Et puis là, ils ont fait un super match avec Brighton contre l'Olympique de Marseille. Oui. Salut Blaise, si tu nous écoutes. Et donc, ils ont permis à leur équipe, indirectement bien sûr, de terminer première de son groupe. Et ils se sont ainsi épargnés le 16e de finale. Et puis, le dernier point sur l'Union Saint-Gilloise, c'est Mohamed Amoura, qui a marqué dans chacun de ses matchs du mois de décembre. Il en est à 12 buts en Jupiler Pro League, 16 buts en tout. Il y a fort à parier qu'il restera peut-être pas Saint-Gillois très longtemps avec les performances qu'il réalise depuis le début de la saison.
Il y a la CAN aussi. Il va pouvoir se montrer à la CAN.
Ouais.
Et c'est... Ça, il faut être sélectionné.
Ouais, c'est ce que. On verra, ça, c'est vrai que ce sera.
Ça pourrait jouer.
Un sale coup pour l'Union.
Ça pourrait être un tournant du championnat, mais aussi il y a la Gantoise. Hein. Ils ont deux, un japonais, un coréen. Ils ont une ribambelle d'Africains aussi qui peuvent aller à la CAN. La Gantoise, le mois de janvier, ils vont pas rigoler.
Ouais.
Et ben déjà, ils rigolaient pas hier.
C'est ça, hier, ça n'a pas été. Ça n'a pas été tout à fait ça. Et bien, voilà, on en a terminé pour nos Belges de la semaine. Et on va pouvoir attaquer. La Jupiler Pro League, bien sûr, on va attaquer ça tout de suite, une fois qu'on aura trouvé... Eh ben non, je trouve... vous allez faire avec votre bouche... Ah si, il est là. J'allais vous proposer de faire le...
Heureusement que t'as trouvé.
Ouais. Alors on démarre, on va démarrer avec le choc entre le champion et qui sait son peut-être futur successeur, c'était l'Antwerp. Qui recevait Anderlecht, on l'a dit, l'Antwerp a réalisé une grande performance, même si la qualité, enfin le pédigré de l'équipe qui jouait contre eux en Ligue des Champions en milieu de semaine, c'est-à-dire le Barça, c'était pas le gros Barça, puisqu'eux étaient déjà qualifiés, mais ils ont réussi à gagner. Henri nous l'a dit, c'est Georges, dont j'ai du mal à prononcer
le nom,
voilà, qui a réussi à remporter le morceau. Et il recevait donc Anderlecht, qui, on le sait, hein, Henri, Anderlecht est sur un calendrier un peu plus light, puisque quand on ne réussit pas à se qualifier pour la Coupe d'Europe l'année d'avant, celle d'après, on a tout le temps de préparer les matchs. Le match s'est donc terminé sur un score d'un but partout. Quand on voit la physionomie du match, est-ce qu'on peut penser... est-ce que les Anderlechtois peuvent regretter quelque chose parce qu'ils ont quand même galvaudé beaucoup d'occasions, mais en même temps, est-ce qu'ils peuvent pas non plus être satisfaits du résultat vu que le but qu'ils ont marqué découle d'une énorme boulette, une énorme cagade, comme on dit dans le sud de la France, de Butet, Jean Butet, qui on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il a saisi le ballon, il a une savonnette, il lui a glissé des mains.
Avec cette confiance,
voilà.
Il l'avait déjà en main.
Et donc il a lâché le ballon et Léonie était à l'affût derrière.
Ça lui est tombé sur la tête.
Voilà, il l'a mise au fond. un but partout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match qui était assez agréable hein, à regarder?
Je l'ai dit pour un lendemain de Champions League, c'est pas mal parce que l'Inter, en général, le lendemain de Champions League, tous les clubs belges qui vont en Champions League payent souvent par des points lâchés le match suivant. Là, évidemment, ce goal est arrivé très tôt dans le match. Ça a obligé l'Inter à courir derrière le score. Mais ça a permis aussi d'ouvrir le jeu, je trouve. Parce que l'Inter est quand même reconnu pour avoir un jeu assez défensif, assez fermé.
Et pragmatique.
Pragmatique, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Donc je pense que s'il faut être honnête, c'est un match nul est tout à fait un score équitable.
Ouais.
Mais évidemment, vu les deux points perdus contre le Standard, parce que c'est deux points perdus à domicile, ça aurait été une bonne idée de gagner trois points en déplacement chez le champion. Donc je pense que dans ce sens-là, ils sont déçus parce qu'ils ont tenu quand même le score jusqu'à la 87e.
Ouais.
Mais si on est objectif, il faut reconnaître que c'est un score de parité qui est justifié, je pense.
Alex,
qu'est-ce que tu... Oui, ils ont perdu des points après la Ligue des Champions. Après, voilà, on connaît la force de l'Inter, c'est être organisé, c'est piquer au bon moment, et que ce soit à la première ou à la dernière minute, ils le font. Donc, après, pour tous les concurrents, un match nul entre ces deux équipes est parfait.
Avec un assist d'Alderweireld dans la 87e minute, il était dans le rectangle adverse. Mm-hmm. Didier parlait de la mentalité du joueur.
C'est exemplaire.
C'est exemplaire, hein, 87e minute.
Ouais, ça lui a rappelé la fin du championnat de l'année passée, où il savait qu'il fallait qu'il soit haut, puisque c'est lui qui, sur une magnifique frappe, avait donné le titre. Et là, il a continué à être offensif et présent. Didier, qu'est-ce que tu en as pensé, toi?
Je crois que le scénario de la Coupe de jeudi, de la Coupe d'Europe, ça les a aidés aussi de marquer en fin de match. Ils se sont dit c'est possible.
Oui, c'est vrai que ça doit donner ça doit galvaniser un petit peu. C'est pas le même.
C'est depuis l'année passée que c'est possible. Ils l'ont fait plein de fois. Et je me souviens contre Bruges, je me souviens du match du titre. Une fois, tu prends 4 points, c'est 4 points, c'est la première ou la quatrième place en play-off. Hein, donc, allez, ou la troisième.
Ils ont réussi à enchaîner, finalement, à ne pas enchaîner une belle performance en Coupe d'Europe par une défaite et il reste dans le bien installé dans le top 6. Un joueur qui vous a plu en particulier, moi j'étais content de voir
Schmeichel faire un arrêt.
Schmeichel faire un arrêt aussi. Non, il a fait un bon match.
Il a fait deux.
Ouais, il a été plutôt. Il a été plutôt bon. Qu'est-ce que vous. À la moitié du championnat, bon, on l'a beaucoup taclé sur son embonpoint. Est-ce que Alex et ensuite Didier, est-ce que tu trouves qu'il monte en, puissance, le père Schmeichel, où il va...
Le père Schmeichel,
enfin, non, le père, il est super, le fils.
Le père était meilleur que le fils. En
ça, il n'y a pas de doute.
Après, je pense que le fils qui a été mordu dans ses fesses par la vidéo qui a circulé de Karl Hufkens le week-end dernier, qui disait « shotter dans les coins ». Pour autant que les attaquants ne soient pas au courant qu'ils doivent faire ça, parce qu'il ne les attrapera pas. Donc je pense que ça a quand même... Ça a mis un malaise dans le vestiaire Anderlechtois quand même, entre ses détracteurs et ceux qui l'aiment bien. Donc voilà, c'est quand même... C'est spécial comme situation, mais tout le monde la connaît depuis le début, et ça durera jusqu'à la fin de saison.
Didier ? Ouais. T'es content?
Oui, enfin Didier, Bruges peut pas rater tous ses transferts non plus. Hein. Bruges ne peut pas rater tous ses transferts non plus.
Ouais. Voilà, il est. Et quel handicap.
Et de Bruges.
Moi, je suis. Il y a Rivers Karen. Est-ce que vous. C'est sympa de.
Ouais. Bien revenu dans le.
Ouais, bon match.
Il y a un type. Quand on parle même plus tellement, c'est naturel quand il fait des bons matchs, c'est Arthur Vermeeren.
Ouais.
On oublie, c'est devenu normal en fait. Il a 18 ans le gamin.
Il y a de la jeunesse qui.
Oui, ils en parlaient comme outsider pour le soulier d'or dans les médias flamands ce matin en tout cas.
Mais ce serait pas, pas une si grosse surprise. Hein.
Je pense que tout le monde sait que ce sera pour Toby.
Ouais, votre pronostic, tiens. Toby du côté de.
Le champion. Hein.
Ouais, la prime au champion.
Ben oui.
Ouais, comme Lionel Messi qui a gagné la Coupe du Monde. Et...
Il a gagné la Coupe du Monde.
Il paraît.
Contre qui?
L'équipe en bleu. Oh.
La Grèce.
Comment?
La Grèce.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est à cause d'un nul. C'est un attaquant du Paris Saint-Germain. Anyway. Non, bah écoutez.
En parlant de bleu.
Comment?
En parlant de bleu.
En parlant de bleu.
Transition.
En parlant de bleu, on va parler bleu et noir. On va passer aux Brugeois. Les Brugeois recevaient la Gantoise. Et coup de chapeau. À un joueur, c'est jamais facile de mettre deux pénaltys dans un match. Il y en a même qui en mettent trois et qui réussissent à perdre une Coupe du Monde, on y revient. C'est jamais facile de mettre deux pénaltys dans un match, surtout face à un gardien qui est un spécialiste et qui a des statistiques qui sont supérieures à quasiment tous les autres gardiens en Europe. Davy Roof, en l'occurrence le gardien de but de la Gantoise, qui a arrêté 40% des pénaltys qui ont été tirés contre lui, donc c'est fantastique. Et bien Thiago, l'avant-centre du FC Bruges, a réussi à marquer ses deux pénaltys en première mi-temps et a permis à son équipe de l'emporter 2-0. Messieurs, on va commencer par Didier, ça fait longtemps qu'il ne nous a pas rendu visite, il va avoir le droit d'ouvrir le bal sur son équipe. peux nous rappeler juste ce qu'il a dit? Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il a dit? Ouais. Il y a des entraîneurs comme ça. Alex.
C'est un bon entraîneur pour une équipe d'outsiders. C'est pas un grand entraîneur pour une équipe au top ou qui veut être au top. Mais après, oui, c'est du Van Hazebroek. Après, Bruges a été très adulte, très mature, a été structuré pour commencer son match, a poussé au bon moment. Le penalty, il est incontestable. Le deuxième, il est encore plus incontestable. Dommage pour Isma qui prend la rouge, mais c'était pas malin à ce moment-là. De faire cette faute de main, surtout que je pense de mon angle dans le stade, je pense pas qu'elle rentrait. Mais Bruges a été mature, Bruges a été adulte, et Thiago, effectivement, comme le dit Didier, j'ai l'impression qu'il a une chape de béton qui est tombée de ses épaules. Et ça fait quelques matchs d'affilée qu'il marque. Mais surtout, il s'est pris le vent de face par Sportza, donc un des plus gros médias football du côté flamand, donc de manière assidûment suivie. Par les supporters de Bruges, et ils avaient mis un message sur Instagram et sur Twitter. On sait que c'est facile parce que Thiago a marqué. Donc il y a eu des réactions virulentes de Bruges sur le journaliste en question, donc qui n'est pas à son coup d'essai et qui a déjà été inculpé pour des problèmes MeToo, mais bon, ça c'est un autre problème à lui. Mais en attendant, depuis lors, Thiago, il est en pleine forme et j'ai l'impression qu'il a un esprit de revanche. Et c'est là qu'il va chercher sa force, justement, pour marquer tous les buts qu'il marque les dernières semaines. Que ce soit contre Gand, que ce soit à Malines, même si c'est annulé, que ce soit en Coupe d'Europe contre Bodo Glimt et Beşiktaş. Il retrouve la forme et j'ai l'impression qu'il n'a plus rien à foutre. Il joue son match, il marque ses buts et basta pour le reste. Mais maintenant, Bruges devait absolument, impérativement gagner hier. Ils l'ont fait, ils ont encore deux gros matchs face à deux équipes bruxelloises maintenant. Et Bruges doit faire 6-6 pour garder ou tenir à l'œil le peloton de tête.
Oui, recoller. Didier ? Alors justement... Alors, De Kuyper, il va plutôt avoir 23 ans dans une dizaine de jours. Mais justement, il a une tête de poupon, c'est vrai. Il a été replacé, il joue à gauche habituellement, il a été replacé à droite. Et on avait souligné, il y a 15 jours, le manque de stabilité de la défense, notamment. Alors, on a taillé. On l'a dit, répété, Alex, notamment, que Mechele n'était pas l'assurance tout risque. Mais surtout, on avait Buchanan, qui est un vrai ailier, ou en tout cas un joueur de vrai ailier, joueur offensif, qui a été positionné arrière droit, back droit. Est-ce que là, c'est un essai ou histoire de faire reposer, ou est-ce que on peut penser que du côté de Dela, on s'est dit que avec Buchanan, c'était peut-être un petit peu, c'est pas assez solide derrière et que ça risquait de causer des soucis.
Je pense que Dela avait peur de Malik Fofana de Gand, qui joue de ce côté-là. Et que c'est pour ça qu'il a mis un joueur avec caractère plus défensif. Défensif,
ouais. Et peu importe son pied,
qui est De Kuyper. Et peu importe s'il joue contre son pied ou pas. Parce que De Kuyper peut revenir sur ses pas offensivement et centrer avec une balle entrante. Maintenant, toujours est-il, tu parles de la défense centrale. Ordóñez a été acheté 4 millions en Équateur l'année dernière et il a joué à Club Next. Déjà là, il était très fort. Et là, tout doucement, on l'implique en équipe première. Et j'ai cru comprendre en interne aujourd'hui qu'ils cherchaient un défenseur central. Ils arrêtent de chercher un défenseur central pour l'instant, pensant que Ordóñez pourrait faire le taf, comme on dit.
Ouais, il a 19 ans et demi.
Il était très fort. Il était au bon endroit, au bon moment. Et pas de déchets dans son jeu. Donc, c'est pas mal du tout. Par contre, en défense centrale, il y a eu un changement. Et c'est depuis lors, Bruges n'a pas encaissé dans 5 de ses 6 derniers matchs grâce à ça. Avant, tu avais Mechele qui jouait du côté défenseur central droit et Spiliers à gauche. Là, Mechele joue défenseur central gauche. Ordóñez ou Spiliers joue à droite. Donc, il y a une permutation défensive qui apparemment apporte plus de rigueur et plus de stabilité. Tout à fait. Mais après, De Kuyper, moi, c'est le meilleur transfert entrant de Bruges cet été.
Ouais, sans doute. C'est un retour de presse, ça.
Bien oui, vu. Mais c'est un transfert entrant.
Non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est encore mieux comme ça. Henri, quelque chose.
Vas-y. Ah. Bien sûr. Où est Boyata? Effectivement, mais je pense que à l'époque Compagnie, les cadres n'étaient pas les mêmes. L'encadrement n'était pas le même. Je pense qu'effectivement, tu as souligné Jan Vertonghen, entre autres, mais des joueurs comme Delaney qui viennent avec son expérience. Les autres Danois aussi, je pense.
Tu as beaucoup plus d'expérience et de maturité dans l'équipe que tu avais du temps de Compagnie qui avait exclusivement des jeunes.
Et lui.
Oui, c'est ça. La carte maturité et expérience, elle était sur le banc, mais c'est pas facile de translater ça sur le terrain.
Pourtant, on lui a laissé du temps en compagnie. Hein, mais...
Ouais, mais il restait forcément dehors du terrain.
Quand tu es un joueur d'expérience sur le terrain dans chaque ligne, en tant que jeune, tu te reposes là-dessus aussi.
Je pense
motivé,
aussi.
Tu te sens plus à l'aise, tu as moins peur. Tandis que si tout le monde est jeune et tout le monde regarde au même endroit compagnie sur le banc, la pression s'installe, le doute s'installe, la peur s'installe.
Et je pense qu'il y a un joueur qui est assez révélateur, c'est Kylian Sardella, qu'on aurait pu brûler sur le...
En place publique.
En place publique pour ses prestations au début de carrière, on va dire. Mais qui finalement, on lui a laissé sa chance, on l'a pas tué, on a accepté ses erreurs, on l'a fait travailler, puis là, ça fait quelques matchs qu'il est quand même à un niveau assez intéressant. Ouais. Mais je pense qu'on lui a laissé sa chance. On aurait pu, il a fait quelques erreurs assez coûteuses même pour en termes de points. Et on aurait pu le brûler.
Et il a été maintenu. Ouais.
Il était maintenu et je pense qu'il répond sur le terrain.
Comme quoi parfois, un petit peu de patience.
Et Léonie aussi, même chose.
Hein, Léonie, ouais.
On l'a mis, lui il a démarré seulement cette année alors qu'il était dans les petits papiers depuis 2-3 ans déjà. Il n'est pas si jeune que ça.
Ouais.
Maintenant on lui fait confiance, il a saisi sa chance. Maintenant il y a il y a pléthore de joueurs dans notre jeu Anderlecht, donc c'est pas évident de se faire une place. Et comme tu dis, on joue pas la Coupe d'Europe, donc il y a que la Coupe de Belgique et le championnat, donc il faut se faire une place.
Bon, et c'est à l'entraînement que ça va se disputer, que ça va se
jouer. Je pense que l'équilibre qu'il y a maintenant, c'est propice au développement des RPD Boys, comme disait Didier.
Et puis Ritz, est quand même un ancrage sérieux au milieu de terrain, il permet... comme vous le disiez tous, de diffuser de l'expérience sur cette ligne du milieu de terrain. Et c'est utile à des joueurs qui en ont moins.
Comme Mario Strogens, si tu veux,
ouais.
qu'on a mis à différents postes, qui enfin, je pense,
a trouvé sa place.
Trouvé sa place, ouais.
On passe à l'Union. L'Union, le leader. L'Union Saint-Gilloise, hier, recevait Malines. Et l'Union l'a emporté grâce à un but de, bien sûr, Mohamed Amoura.
De la tête.
De la tête. C'est bien. Alors, c'est une tête plongeante. C'est pas la tête à laquelle on s'attend. Mais enfin, il a marqué de la tête. Ça allait encore un peu dans tous les sens offensivement. Comme souvent, ils ont eu aussi ils ont eu la chance d'avoir un très grand Maurice qui a fait des arrêts décisifs parce que le score a été, la marque a été ouverte à la 54e minute seulement. Et après, les joueurs de Malines ont eu les opportunités de revenir, mais Anthony Maurice a fait des arrêts assez impressionnants sur sa ligne. La stat, 24 tirs du côté de l'Union, 15 du côté de Malines. C'est beau, un match à près de 40 frappes, 40 tirs. Il y a eu une ou deux occasions très confuses, notamment côté de l'Union, où on a vu Castromontes qui a retiré à Puertas. Enfin, il y en a un qui arrivait pour tirer et l'autre qui est venu, il voulait pas lâcher le ballon, était à lui. Il a fait son déplacement jusqu'au bout et il a empêché son coéquipier de tirer. Victoire 1-0, on parlait finalement du bon match d'Anderlecht qui est allé prendre un point sur le terrain du leader, mais mathématiquement, comme tu l'avais dit Alex, ça fait les affaires de l'Union qui a grappillé encore un peu de points d'avance puisqu'ils ont désormais 8 points d'avance sur Anderlecht.
Mmh. Oui, que veux-tu que je te dise de plus? Effectivement, ils ont 8 points d'avance, mais bon, il y a un moment où il va y avoir un creux de toute manière. Donc, c'est aux autres équipes d'être meilleures, c'est aux autres équipes de pas lâcher des points, c'est aux autres équipes de les battre.
Et on dirait qu'il vient de lâcher 4 points sur les deux derniers matchs. On s'en m'a su contre le Standard, m'a su contre Antwerp.
Oui, mais ça, c'est de votre faute.
Hein. Ben oui.
Ouais, oui.
Les points, c'est les points.
Après, tout le monde ne reçoit pas des pénaltys tous les matchs, tout le monde n'a pas tous ses avantages, mais encore une fois, c'est quelque chose qui tourne dans le championnat.
À la fin, ça s'équilibre, tu crois?
Je suis quasi sûr, oui.
Parfois. On l'appellera. Quelque chose à dire en particulier sur le match de l'Union, Henri, Didier?
Mais c'est pas son meilleur match, mais il gagne.
Didier. Non. Henri, toi qui es...
Mais les play-offs seront plus longs cette année que l'année passée. Hein.
C'est vrai.
Des play-offs à 6.
À 6.
Il va falloir tenir sur la longueur.
Il y a une équipe dont on n'a pas parlé qui fait partie du top 6, c'est Genk. Le match était sans doute moins attendu. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. 4-0 face à Courtrai, donc avec un doublé notamment de Pencil. Les Genkois sont passés à la trappe en... Coupe d'Europe.
C'était surtout lors de la cinquième journée qu'ils se sont vautrés à la Fiorentina et c'est à cause de ça que Ferencváros et Fiorentina avaient tous les deux assez avec un point. Ils se sont contentés d'un point. Un petit match
ouais.
comme à la Coupe du Monde 82, si je ne m'abuse. Hein, ce genre de choses. Mais Genk ne connaît pas sa meilleure saison, ni en Europe, ni en championnat, ni en Coupe, parce qu'ils se sont quand même. Ils ont pris le haut à Ostende, dans tous les sens du terme. Donc, saison difficile, mais ils peuvent encore choper le top 6. Et on aura des playoffs avec vraiment plein de grosses équipes, parce que les autres playoffs à 6 avant, tu avais toujours un Saint-Tron, un Lokeren qui s'incrustait dans le tas. Ici, tu vas avoir vraiment 5 grosses cylindrées plus l'Union.
Ouais, là, on est actuellement, c'était le Cercle de Bruges qui était l'équipe pas un petit peu surprise, on va dire en tout cas, qui n'était pas attendu à ce niveau-là, qui est sorti du top 6. Et le top 6, pour le moment, il est composé en 6e position du club. De Bruges, 30 points. Genk, 31. L'Antwerp, 31. La Gantoise, 32. Anderlecht, 36. Et l'Union Saint-Gilloise, 44. Je vous rappelle qu'on divisera les points par deux à l'issue de la 30e et dernière journée de championnat. Dans le bas du tableau, Westerlo, 13e avec 17 points. Eupen, 14e avec 15 points. OHL 15e avec 13 points et Courtrai 16e et dernier avec 10 points. Voilà, une bonne chose de faite que cette journée du championnat, 18e journée de la Jupiler Pro League. Ah ah ah, oui Didier. Ah.
Avec le maillot du Standard, c'est une honte, en tout cas. Oh.
Non, les vrais supporters du Standard, ils vont à l'Union le week-end. Bisous à Steve. Une purge.
Pas qu'ils jouent à la carte, c'est qu'il y a une motivation ou pas. Et d'un côté, c'est une saison très grise pour eux aussi, et certainement après l'élimination en coupe, ils n'ont plus qu'à choisir quelques matchs où ils vont prendre des points, ils vont faire quelque chose et éviter le bottom four. Et c'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils
veulent. C'est ça. C'est-à-dire que le ventre mou du championnat, il va être. Il y a Bruges, le cercle qui est encore un petit peu qui a 2 points du top 6, mais on sent qu'ils vont sans doute décrocher un moment. Et ensuite, est-ce qu'on sent vraiment qu'ils vont être inquiétés par un retour de Westerlo? Peut-être pas. Donc ils vont se retrouver sans avoir rien à jouer, surtout s'ils se sont fait éliminer de la coupe, effectivement. C'est la méthode Coué, hein. On essaye de se motiver, on essaye de se faire croire que. Tu crois vraiment cette saison, honnêtement?
Non. Ils ont les armes pour jouer la 8e place, pas plus.
Ouais, et ils sont 9e. eh ben on fait un appel aux supporters du Standard. Est-ce que vous pensez qu'il y a foutage de gueule? Eh ben, ça t'arrange? C'est pas vraiment une menace pour Bruges, mais bon. On va passer maintenant au moment que vous attendez tous, la Minute Sportimize. On va apprendre certainement encore quelque chose de passionnant, et en plus, ça concerne le Sporting d'Anderlecht, visiblement. Alex, de quoi vas-tu donc nous parler?
C'est un sujet moins joyeux, parce qu'on va parler de la mort. Et donc, effectivement, on va parler d'Anderlecht, car il y a 10 jours, Anderlecht a innové, en tout cas pour Anderlecht, et il propose des funérailles au stade. Donc des personnes qui ont perdu un être cher peuvent désormais louer une salle de 20, 50, 200 ou même une loge dans le stade. Et même il y a une salle de conférence avec 1000 personnes pour organiser des obsèques et une cérémonie funéraire pour leurs défunts. Donc c'était assez étrange en le lisant. Mais en cherchant un peu, on s'aperçoit qu'en Belgique, il y a Gand qui le fait déjà, il y a Louvain qui le propose à ses supporters, le Beerschot, le Lierse, même si au Lierse, ils ont déjà eu plus de faillites que de supporters morts, à mon avis. Et même Beveren propose de louer ce stade, et leur stade et leur loge, pour ce type de cérémonie. Donc c'est un moyen pour les familles de rendre hommage à leur personne ou leur être cher, qui était abonné, qui était grand fan de son club, mais aussi un moyen de rentrer de l'argent, évidemment, parce que la salle n'est pas gratuite. Et donc c'est en Belgique pour l'instant. Ça va peut-être donner des idées à d'autres clubs. Mais j'ai cherché un peu plus loin, et en Angleterre, on a certains clubs comme West Ham qui proposent des gadgets ou des souvenirs pour une personne décédée, que ce soit un cadre, que ce soit quelque chose aux couleurs du club. Et Hambourg, en D2 allemande, un club de tradition, a même un cimetière du club. Wow. Avec 400 pierres tombales de supporters qui sont décédés, et avec une pierre tombale vraiment à l'effigie du club, et on disperse les cendres dans le Volksparkstadion. Il y a un endroit spécifique qui est réservé pour ça, du côté de Hambourg. Donc c'est même un supporter, après sa mort, il peut encore dépenser son argent, ou en tout cas ses proches peuvent dépenser leur argent pour le club. Donc c'est un dernier moyen d'aller tirer quelque chose. Ceci dit, on ne va pas être trop caustique et trop négatif non plus, parce que, voilà, on le sait, y a les stades sont construits, surtout en Belgique, ils sont à certains endroits depuis presque un siècle, pour certains, et ces stades ont été construits sur des terrains qui étaient des terrains vagues à l'époque, un tout petit peu en dehors du centre-ville, de l'autre côté de la gare, et on le sait, à Bruges, il y a un cimetière juste à côté du stade. À Malines, on se demande pourquoi à la tribune en face de la TV, il y a une courbe qui descend vers le bas. La réponse est parce qu'il y a un cimetière juste derrière aussi. Donc il y a des stades qui sont juste à côté d'un cimetière et qui ont encore une marge de manœuvre. Donc si Malines ou Bruges écoute, je vous offre un conseil marketing pour 2024.
Donc on peut dire que c'est Anderlecht till I die. Comme...
Certains se font tatouer ça, mais bon, après une crémation, il ne reste plus trop grand-chose.
C'est vrai. Eh bien, merci pour ce moment particulier. Effectivement, on peut désormais vivre l'éternité aux couleurs de son club.
On peut mourir tranquille, comme disait Thierry Roland.
Tu disais, Didier? Ah, oh là là, joli, très très joli. On va passer, il nous reste une dizaine de minutes, on va passer à l'événement de la journée. C'était le tirage au sort des Coupes d'Europe. Tirage au sort qui a été effectué donc aujourd'hui et qui donc nous permet désormais de connaître le programme de la reprise en février. Et on va commencer par la Ligue des Champions. Ligue des Champions, le tirage c'est les matchs suivants: Porto, Arsenal, Napoli, Barcelone, PSG, Real Sociedad, Inter, Atletico, PSV, Dortmund, Lazio, Bayern, Copenhague, Manchester City, Leipzig, Real Madrid. De ces 8 matchs, lequel vous met le plus l'eau à la bouche?
Leipzig.
Leipzig contre le Real.
Le Real, ça va. Je demande à voir.
Oh, franchement, aucun. Naples-Barcelone pour le petit cachet historique sympa.
Et Inter-Atlético, ça va être sanglant. C'est Diego Simeone qui était joueur de l'Inter aussi pendant un certain temps, jadis. Didier, t'as une... qu'est-ce que t'inspire ce tirage au sort ? Le Diego Maradonatico.
Je lis.
Le Diego Maradona.
Au stade Diego Maradona.
Au stade Diego Maradona. Je vais parler du Paris Saint-Germain un instant. Sur le papier, c'est le meilleur tirage au sort possible pour le Paris Saint-Germain, puisque les autres équipes faisaient figure quasiment toutes d'épouvantail, à peine. Pour autant, la Real Sociedad... À Noeta, San Sébastien, donc, ça n'est pas un oiseau pour le chat. Et c'est la meilleure défense de Ligue des Champions, vu que l'équipe du Paris Saint-Germain a peut-être la moins bonne attaque, si on retire Kylian Mbappé, parce que les trois autres joueurs qui sont devant sont quand même assez aussi forts que la grand-mère de Didier. notamment ce joueur qui nous a... manger la feuille de match en finale, Colomoyen, comme je le surnomme. Et donc, ça va être un choc intéressant. Il ne faut pas que les Parisiens pensent que, justement, il ne faut pas qu'ils soufflent en se disant « Ouf, on a évité un gros morceau et ça va être facile ». C'est le club qui a formé Antoine Griezmann, la Real Sociedad. Et ma foi, ils ont perdu que trois fois, je crois, cette saison. Et ils sont excellents en défense, donc ça va être un choc intéressant.
Avec 60% de joueurs basques aussi.
C'est vrai qu'il y a une tradition qui était plus à l'Athletic Bilbao, mais aussi c'est bien cette petite tradition de jouer, de faire local quand on peut.
Oui, après il y a une certaine réalité économique, en Bretagne, comme en Bavière, comme en Flandre occidentale, en Belgique, il y a des régions qui sont économiquement plus fortes que d'autres. Mais ici, la Sociedad, très belle ville, c'est un peu le Paris du nord de l'Espagne. Et le stade est très chouette aussi. Mais le PSG devra faire très attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis.
Je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, la chance du PSG, c'est qu'il n'y a aucun ancien du PSG, je crois, à Real Sociedad.
Ça
va, c'est peut-être ça, la chance. Le PSV Eindhoven, il marche sur l'eau, on l'a dit, en championnat, face à Dortmund, qui est paru... Dortmund, ils étaient impressionnants pendant un certain temps, pendant le match contre Paris. Après, ils sont fatigués, il faut dire qu'ils ont eu des joueurs fatigués, des expulsés, notamment aussi en championnat le week-end d'avant, qui fait que... d'un côté, c'était bien, le joueur qui a été expulsé en championnat a pu se préparer tranquillement pour le match de Coupe d'Europe, mais ses camarades qui ont joué à 10 pendant 80 minutes, ils ont tiré la langue un peu plus à la fin du match de Coupe d'Europe. Si vous n'avez rien à ajouter, on va passer à la Ligue Europa, où on va on va passer directement à la Conference League.
La Ligue Europa, il y a quand même un match Lens-Freiburg, ça pue les années 90, c'est magnifique.
C'est vrai, ça va être un beau... un beau choc. L'OM contre Shakhtar Donetsk, j'en parlais avec notre ami Blaise avant quand je l'ai croisé dans les couloirs. Le Shakhtar, ils sont que sur des matchs amicaux là depuis un certain temps. Ça va être compliqué pour eux, mais ils réussissent à conserver un certain niveau, mais ça va être ce sera pas facile. En plus, après la trêve hivernale pour eux de garder un très bon niveau. Benfica Toulouse et l'AC Milan Stade Rennais, les clubs français n'ont pas tiré les adversaires les plus faciles.
C'est magnifique pour Rennes d'aller au Milan AC, c'est une affiche rêvée.
C'est vrai.
Leur ambition n'est pas gagner la Ligue Europa. Donc
et c'est le Johan Gourcuffico. On va le sortir à chaque fois. Ouais. Et Feyenoord de AS Rome, une belle affiche. Une très belle affiche. Conference League. Allez, les clubs. Les clubs belges étaient concernés par ce tirage, et notamment l'Union qui rejouera Francfort, l'Eintracht.
Pas de chance.
Ouais, pas facile. Et la Gantoise qui s'est mise à l'hébreu, puisqu'après le Maccabi Tel Aviv, en première phase, ils rencontreront le Maccabi Haïfa, ce qui donnera l'occasion de revoir Lior Refaelov sur les terrains belges. qui a marqué un très beau coup franc ce week-end.
C'est un des joueurs favoris d'Henri, ça.
Un beau joueur.
La finale de coupe, le oui. tir de 25 mètres en cloche.
J'ai oublié, j'étais pas là.
Le 2-1, la victoire de Bruges, oh, c'était magnifique. Quel moment exceptionnel dans ma vie.
Si vous y mettez à deux, je ne vais pas m'en sortir.
Mais Gans, sans blague, devra faire très attention s'ils veulent passer au prochain tour.
Ouais.
Pour l'instant, il n'y a que Bruges qui est qualifié. Donc,
Vous êtes tranquille. Écoutez, l'Ajax va affronter le Bodo Glimt, que Bruges connaît bien. Mais l'Ajax, on ne sait plus très bien ce que ça vaut. Donc...
pas très compliqué en Hollande non plus. Certainement, quand t'es dernier, tu sais difficilement faire pire.
Ils sont qu'à 25 points du PSV Eindhoven, mais ça va aller. Non, mais c'est vrai qu'ils étaient... C'est vrai. Ah là, Jacques peut pas descendre, quand même.
C'est impossible.
Impossible.
Lyon non plus.
Comment ?
Lyon non plus.
Lyon non plus. Lyon ne descendra pas, mais bon. Lyon est... effectivement, on rappelle qu'en Ligue Europa et en Conference League, on joue des barrages, des sortes de faux 16e de finale, puisque les clubs reversés de l'étage au-dessus affrontent des deuxièmes. Donc vous finissez deuxième de Ligue Europa, vous jouez contre un club qui a terminé troisième de sa poule de Ligue des Champions. L'avantage, ou le petit avantage qui a été donné quand même au club qui a fini deuxième, c'est qu'il reçoit au match retour. Statistiquement, ça reste
un avantage.
Écoutez, c'est voilà une... Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur ces tirages au sort ? Est-ce que vous êtes excité à l'idée d'affronter l'hiver
Je trouve qu'il y a beaucoup de matchs quand même encore.
Ouais.
Ah, c'est fait exprès pour les droits TV.
Ouais. Ils sont en train d'en rajouter avec la
Mais qu'est-ce qu'ils vont faire du quatrième de Ligue des Champions ? Il ne peut pas aller jouer, lui, en Conference League l'année prochaine ?
Non, mais ils sont en train d'inventer encore une compétition.
Ils vont faire un tournoi d'hiver.
Ils sont encore en train d'inventer une compétition, la championnat du monde des clubs.
Ouais.
Pour rajouter encore des matchs.
Ça va commencer d'ailleurs, oui.
Attention, avant tu avais les tournois d'hiver et les tournois de Maspalomas, etc.
Donc, c'est vrai. C'était encore autre chose. Mais la Coupe du Monde des clubs, là, qui se joue, enfin, avec le Fluminense et City, qui sont donc qualifiés directement pour les demi-finales. Ben, je crois. Eh bien, écoute, il va falloir effectivement se mettre au boulot. Eh bien, merci Henri.
Merci beaucoup.
Alex, merci.
Avec plaisir, à
l'année prochaine. Didier, merci. Et puis, on se retrouve à... Exactement, bonne fête à toutes et à tous. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures footballistiques. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.
Ciao, ciao.
Au revoir.